Cinéphilo, orgueil et préjugés, première partie du corrigé. Premièrement, pourquoi travailler sur cette adaptation d'Orgueil et Préjugés ? La première des raisons, c'est que Orgueil et Préjugés fait partie de la liste des œuvres qui sont de la liste indicative en fait des œuvres en HLP sur ce thème des expressions de la sensibilité. Et deuxièmement, donc c'est une adaptation que moi j'ai toujours trouvé donc très marqué par la présence de l'art. L'art est présent dans le roman, mais là dans l'adaptation, c'est vraiment voilà, on a des pièces qui sont saturées d'œuvres d'art, c'est vraiment omniprésent. Donc ça collait bien avec ce thème, enfin la question que j'ai choisie sur l'art comme meilleur moyen d'expression de la sensibilité. Il s'agit donc, j'ai oublié de le dire, de l'adaptation de Joe Wright de 2005. Et on va faire très rapidement, alors je vais remplir très rapidement les trous de la recherche Wikipédia qui n'était pas très difficile à faire avant de passer aux questions d'analyse des séquences vidéo. On commence par la biographie de Jane Austen. Donc c'est une écrivaine anglaise, premier trou. Deuxième trou, 18e siècle, alors 18e qui mord sur le 19e siècle, entre les deux siècles, Jane Austen. Elle a une vie assez courte, donc 41 ans. Et elle est connue pour sa critique sociale, mordante. Donc troisième trou, social. Sa maîtrise du discours indirect libre, son humour. Quatrième trou, humour décalé, et son ironie, qui ont fait d'elle l'un des écrivains anglais les plus largement lus et aimés. Pour le petit paragraphe suivant, nous avons trois petits trous à compléter. Critique des romans sentimentaux. Ensuite, des intrigues qui sont de nature comique. Et ensuite, la dépendance des femmes à l'égard du mariage. Je répète, pour ces trois trous, sentimentaux, comiques et mariage. Et pour le dernier trou de cette biographie, il s'agit du titre de Orgueil et Préjugés en anglais, donc Pride and Prejudice. Ensuite, on a un petit passage spécifiquement sur Orgueil et Préjugés. Les trous correspondent simplement au nom des personnages. Donc le personnage principal féminin, Elizabeth Bennet, et le personnage principal masculin, Monsieur Darcy. On passe ensuite au 1.2, qui est cette fois consacré à l'adaptation cinématographique de 2005. Pour compléter le texte à trous, qui n'est pas bien compliqué, donc on a quatre petits trous. Le premier, donc, c'est le réalisateur Joe Wright, sorti en 2005 pour l'année de sortie du film. Ensuite, nous avons Keira Knightley dans le rôle d'Elizabeth et Matthew McFadden dans le rôle de Darcy. On passe donc tout de suite au grand 2 avec l'analyse des scènes vidéo. On va commencer avec les questions donc de point A qui doivent vous rappeler ce que vous avez fait sur l'éducation et notamment l'éducation des femmes et le rôle de l'art dans l'éducation des jeunes filles, des filles, pour qu'elles deviennent des compagnes agréables pour leur mari. Je vous ai sélectionné deux scènes, donc une scène où les jeunes, Elizabeth Darcy, Bingley et la sœur de Bingley, discutent de ce qu'est une femme accomplie. Donc une femme dont l'éducation a été poussée à son terme et qui a développé toutes les qualités qui sont censées être ses qualités de femme et de parfaite compagne. Il y aurait donc un modèle de la femme accomplie qui va de pair avec le modèle d'une femme de la haute société accompli. Et c'est justement par rapport à ce modèle que Lady Catherine, donc ça c'est le deuxième extrait, donc Lady Catherine qui est la tante de Darcy et qui cherche à rabaisser et à dévaloriser Elizabeth puisqu'elle a dû bien sentir que Darcy n'était pas insensible au charme d'Elizabeth et que Lady Catherine cherche depuis toujours à marier sa fille à Darcy. Donc, Lady Catherine va être particulièrement méchante et va chercher à confronter Elisabeth à son manque, prétendu manque d'éducation ou manque de culture, et lui poser tout un tas de questions visant à lui rappeler constamment son statut social inférieur. Donc là, je viens de répondre aux deux premières questions. Il y avait également la question dans la gentry anglaise, à qui est réservée l'éducation artistique? Donc, comme on le voit, c'est réservé aux femmes. D'ailleurs, dans la première scène, Bingley, ben justement, fait l'éloge de cette capacité des femmes à pratiquer tout un tas d'arts, etc. Donc l'éducation artistique est vraiment réservée aux femmes. La question est pourquoi? Alors, il y a diverses raisons à cela. Premièrement, les arts sont des arts qui sont des arts agréables et qui permettent aux femmes d'être de bonne compagnie pour leur mari, d'être une compagnie agréable. Et d'ailleurs, Lady Catherine, là, demande à Elisabeth de jouer du piano parce que c'est un art d'agrément, donc ça produit l'agrément. Ensuite, une partie des arts sont des arts utiles, notamment les arts décoratifs. Bingley, encore une fois, parlait du motif de table, donc d'une peinture faite sur table par la sœur de Darcy. On voit, il parle aussi de la broderie. Donc, quand on parle d'art encore ici, c'est au sens un peu ancien, très englobant, beaucoup plus vaste que la réduction qu'on fait aujourd'hui aux beaux-arts. Donc, il s'agit vraiment de l'art au sens aussi d'artisanat. Voilà, la broderie, le dessin sur table, ça, c'est de l'artisanat. La musique faisant plutôt partie des beaux-arts ainsi que le dessin ou la peinture. On reparlera de ces distinctions dans la question 2B. Et enfin, troisième raison pour que l'éducation artistique soit cantonnée aux femmes, c'est que l'art est associé à la sensibilité, à l'expression de la sensibilité. Là, on retrouve notre thème, qui est une caractéristique féminine. Les femmes ont un rôle de société, on va dire, de création de liens sociaux, d'entretien de liens sociaux. On attend d'elles qu'elles soient à l'écoute de la sensibilité des autres, qu'elles puissent exprimer leur sensibilité. Ce sont des qualités féminines qui, justement, sont plutôt refusées aux hommes qui doivent être plus guerriers, courageux, plus sportifs, plus scientifiques. Voilà, donc il y a vraiment un partage des rôles et un partage des éducations qui est très très marqué encore au 19e siècle. Alors, on va passer aux questions 2.B qui portent sur l'art, la notion d'art, le concept d'art et la distinction entre le sens général englobant du mot art et sa réduction aux beaux-arts. Quels sont les beaux-arts? Quels sont ensuite les arts mineurs? Ça, vous verrez en tronc commun, on travaille sur l'art, mais il faut avoir deux, trois petites bases, donc sur la distinction entre le sens général du mot art, qui a eu cours pendant plusieurs siècles, et qui correspondait à toutes les activités de production, et pas seulement à ce que nous appelons art aujourd'hui, qui est réduit aux beaux-arts, c'est-à-dire à la classification qui avait été commencée par Hegel, qui comportait l'architecture, la musique, la littérature, la peinture et la sculpture. Donc en fait, à travers les deux séquences que je vous ai données, donc la première séquence, c'est vraiment le tout début, les premiers plans de l'adaptation d'Orgueil et Préjugés, et on voit Elisabeth qui tient un livre, qui rentre chez elle, et on entend le thème qui est vraiment le thème musical récurrent que Elisabeth jouera elle-même au piano, que Georgina, donc la sœur de Darcy, joue également et qu'on entend extrêmement régulièrement. Donc c'est le thème musical qu'on entend, et on voit la sœur d'Elisabeth jouer également du piano. Voilà, donc ça c'est pour la petite scène d'ouverture. Et ensuite, on a une deuxième scène, qui est une scène très importante du film, puisqu'on va dire que c'est la scène de la révélation, où Elisabeth réalise, se rend compte de ses sentiments envers Darcy, et donc c'est une révélation qui se fait à travers la contemplation d'œuvres d'art. Donc là, dans cette scène-là, on a vraiment une profusion et vraiment une saturation, c'est peut-être même un peu trop. Là, il y a une pièce où déambule Elisabeth qui est truffée d'œuvres, alors qu'il s'agit a priori d'une pièce à vivre. Bon, donc là, on voit un certain nombre d'autres arts, l'architecture évidemment, avec le château de Pemberley. Alors, Pemberley est imaginaire, hein, là, c'est un autre château existant. Voilà, le château, l'entrée dans le vestibule, on a la peinture avec les plafonds qui sont peints, on a également, donc évidemment, la sculpture, puisqu'il y a toute une salle qui est réservée à la sculpture, et c'est là qu'il y aura la révélation face au portrait de Darcy, mais ça, on en reparlera un petit peu plus tard de la révélation. Ensuite, on a une visite du château qui passe par une pièce où, encore une fois, on voit des sculptures, des peintures, etc. Et Elisabeth qui, ensuite, va entendre Georgina jouait de la musique, donc la musique est évidemment présente également, et jouait du piano, et avant cela, Elisabeth observait les jardins, donc l'art des jardins également. Donc je vous avais demandé dans les questions de distinguer les arts majeurs et les arts mineurs. Si on résume, donc du côté des arts majeurs, on a l'architecture, Pemberley, on a la musique, le thème notamment récurrent joué par Georgina. On a la littérature. D'ailleurs, pour l'anecdote, en fait, ce qu'est en train de lire Elisabeth au tout début du roman, en fait, c'est Orgueil et Préjugés. Donc, il y a une espèce de mise en abîme du roman. Elle lit le roman dont elle est l'héroïne. Et on a la peinture et on a également la sculpture. Hein, la sculpture qui sera révélatrice d'un tas de choses, mais ça, on en reparlera plus tard en corrigeant le 2.D. Et par rapport donc à nos arts mineurs, nous avons l'art des jardins, nous avons la broderie, nous avons, oui, la broderie, on voit la sœur d'Elizabeth Jane broder tout au début de la scène d'entrée du film. Nous avons aussi des tapisseries. Donc la question c'est qu'est-ce qui différencie les arts mineurs des arts majeurs ? Comme vous le pressentez peut-être, c'est le rapport à l'utilité, à l'utilitaire. Les arts qui sont des arts mineurs sont plutôt les arts, par exemple ce serait le design aujourd'hui, les arts du design, c'est-à-dire ce qui ajoute une dimension esthétique à des objets qui sont des objets utilitaires. Je dois entretenir mon jardin, je peux le faire en pratiquant une forme d'esthétique qui va faire de mon jardin un beau jardin et pas simplement un jardin bien taillé. Et alors, il y a un des arts qui est très présent dans le film et que je vous ai réservé pour la question C, c'est la danse. La danse n'avait pas la chance de faire partie des beaux-arts, en tout cas de la classification initiée par Hegel, qui ne comprenait que les cinq dont nous avons déjà parlé, et la danse a été ajoutée comme sixième art par la suite, et vous savez que le septième art, c'est bien entendu le cinéma. Donc, quel est le rôle de la danse, le rôle très particulier de la danse dans Orgueil et Préjugés ? Alors tout d'abord, on peut remarquer que l'art de la danse, c'est un art qui est un art populaire, contrairement aux autres arts qui sont classistes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils permettent de différencier les classes sociales ou de différencier le rang, notamment par la plus ou moins grande maîtrise de l'art de la musique, la plus ou moins grande maîtrise de l'ensemble des arts, on l'a vu avec l'éducation des femmes. Donc, les beaux-arts sont souvent utilisés pour distinguer les rangs, c'est la théorie de la distinction chez Bourdieu, les gens gens et les classes sociales ne se distinguent pas que par leur richesse financière ou leur richesse en termes de patrimoine, mais ils se distinguent aussi par ce que Bourdieu appelle le capital culturel. Qu'est-ce que c'est que ce capital culturel? C'est l'ensemble des connaissances que vous possédez, c'est le nombre de savoirs que vous maîtrisez, de savoir-faire que vous maîtrisez, et notamment de savoir-faire artistique ou de connaissances dans ce domaine-là. Et l'un des meilleurs films sur ce sujet, c'est « Le goût des autres » de Jean-Pierre Bacri, et Agnès Jaoui d'ailleurs, je crois que c'est les deux réalisateurs, je ne sais plus, enfin le goût des autres en tout cas, met bien en scène cette question de la distinction culturelle. Bref, donc ici, l'art de la danse apparaît comme un art qui échappe à cette distinction par la culture. Au contraire, l'art permet d'égaliser les conditions, permet de se faire rencontrer des personnes de rang social distinctes. Alors encore une fois, on est, même quand il s'agit du bal populaire, le premier bal, la première scène de bal, ce n'est peut-être pas absolument toutes les catégories sociales qui sont représentées dans ce bal. Encore une fois, Elisabeth est de rang inférieur, mais elle appartient quand même à la petite bourgeoisie, ou même à la petite noblesse. Donc il faut relativiser les choses, mais en tout cas, la danse a ce rôle-là. Deuxièmement, la danse est, là ça va rejoindre notre thème de l'expression de la sensibilité, la danse est un art qui est à la fois codifié. Les danses sont réglées, hein, on le voit dans les danses, ce sont des danses populaires, mais dont les pas sont réglés, dont il y a des codes, des conventions. Et en même temps, eh bien, dans l'interstice de ces codes, de ces pas conventionnels, de ces gestes conventionnels, on voit apparaître les émotions des notamment des jeunes couples. Dans la scène de bal, on voit tout de suite les émotions de Bingley et son désir assez évident de Jane. De la même manière, dans la scène de danse entre Darcy et Elizabeth, lors du deuxième bal à Netherfield, on voit premièrement Elizabeth tourner très vite en dérision les codes de la conversation plate, de la conversation mondaine en fait, qui a une pure fonction sociale. Et cela permet aux deux protagonistes d'entamer assez vite une discussion qui sera une discussion réellement expressive, dans le sens où elle va exprimer réellement les intérêts et les sentiments de chacun. Et d'ailleurs, l'un des moments remarquables de cette danse, c'est le moment de l'interruption de la danse, où en effet, et le code de la danse et le code de la conversation mondaine est rompu, et c'est là qu'apparaissent les sentiments de colère de Darcy et de mépris d'Elisabeth. Moment auquel fait suite, très rapidement, un retour à la danse, mais un retour cette fois-ci à une danse qui n'est plus conventionnelle, qui est une danse marquée par le silence, et dans la mise en scène, les personnages sont seuls au monde. Je suppose que vous avez remarqué cette rupture dans la mise en scène. Les autres personnages, les autres couples disparaissent et seuls Darcy et Elisabeth dansent dans la salle avant de revenir à la fin, sur la dernière note de musique, de revenir à la salle comble. Donc on a là une mise en scène qui pour le coup est très très élégante ce passage progressif d'une situation où les sentiments sont masqués et masqués derrière des conventions à une situation de libération, on peut dire, des sentiments. Libération qui est aussi une libération par rapport au langage grâce à la danse. À la fin, il ne reste plus que la danse et des sentiments qui sont beaucoup plus épurés, justement parce que on ne parle plus, ou les personnages ne parlent plus. je me rends compte que j'ai oublié une chose importante concernant la danse. Donc, premièrement, en effet, c'est un art qui abolit les classes sociales et fait se rencontrer les classes sociales. Deuxièmement, il permet l'expression des sentiments peut-être bien mieux que le langage, mais c'est aussi parce qu'il permet la rencontre des corps et le toucher, en tout cas l'utilisation de ce sens du toucher par lequel on est directement en contact de l'émotion d'autrui. Bon, je m'arrête là. On pourrait dire bien d'autres choses sur la danse, notamment par rapport à ce que dit Elisabeth, à la comparaison de la poésie et de la danse, où Darcy soutient que la poésie est le meilleur vecteur de l'amour et où Elisabeth soutient qu'il s'agit de la danse. Ça, c'est une jolie réplique de la fin de la première scène de bal. On aurait pu aussi s'attarder sur la première réplique de Darcy, enfin, en tout cas sa première conversation, mini-conversation avec Elisabeth, qui lui propose de danser, ou en tout cas lui demande s'il danse, ce qui est une forme de proposition cachée, et Darcy qui lui répond « Only when I'm forced », donc « seulement si j'y suis contraint », et dans la deuxième scène de bal, c'est lui qui l'invite, non sous la contrainte, ou alors, s'il y a une contrainte, on peut penser que c'est justement la contrainte de ses sentiments et de son amour. Donc voilà, on aurait pu gloser encore beaucoup sur la danse, qui est l'art un peu central quand même dans Orgueil et Préjugés. Alors, je pense que on a bien répondu à la question sur le rôle de la danse dans le rôle de la danse en général, le rôle de la danse dans l'économie du roman et du film. Alors, la question que je posais aussi, c'est comment expliquer son oubli par Hegel? Je vous rappelle la classification des beaux-arts qui ne fait pas entrer la danse en son sein. Donc, c'est que, alors pour Hegel, il y a un principe, c'est que l'art exprime l'esprit et que il y a une hiérarchie des arts qui va du plus matériel, du plus proche du corps, au plus spirituel. Le plus spirituel étant la littérature et le plus concret, en fait, le plus proche de la matière étant l'architecture. Il y a cette gradation, en fait, et donc la danse est sûrement sortie de cette classification. Parce que la danse est très corporelle, trop corporelle pour la classification de Hegel. Par contre, c'est un art qui est très fortement valorisé chez Nietzsche. Je vous ai mis une petite référence à La naissance de la tragédie, qui est un livre de Nietzsche qui est très très intéressant en esthétique, qui est lisible, bon, si ça vous intéresse. Et donc, la danse. Alors, danse qui va de pair avec la musique, parce que pour Nietzsche, de toute façon, si on regarde bien ce qui se passe, la danse n'est pas séparable de la musique, elle va de pair avec la musique, elle est une forme de transposition dans le corps des sons de la musique ou des rythmes de la musique, une sorte de continuation corporelle de la musique, on pourrait dire. Bon, bref, donc le duo corps-musique est typique de ce que Nietzsche appelle l'art dionysiaque, qui est un art par lequel on sort de soi. C'est l'art de la transe, en fait, ce qui nous fait sortir de nous-mêmes, un art de désindividuation, et qui renvoie à Dionysos. Dionysos, c'est le dieu du vin, de la fête, et donc c'est le dieu de la transe. Et Nietzsche oppose cet art dionysiaque à ce qu'il appelle l'art apollinien, en référence au dieu Apollon, donc le dieu des arts, de la beauté artistique. Et l'art apollinien ou les arts apolliniens sont des arts de la mesure qui justement sont les arts de l'harmonie, des arts plus proches de l'expression de l'esprit, d'un esprit relativement rationnel d'ailleurs, qui convient bien en fait à la classification hégélienne. Et en fait, on pourrait voir dans ces deux types d'art deux formes d'expression qui sont très différentes. Dans l'idée d'expression, vous avez la pression, donc une forme de force ex qui va à l'extérieur. Et dans l'art dionysiaque, il y a une sortie de soi. Ce qui sort, en fait, c'est une espèce, une forme de pulsion, d'ailleurs une pulsion assez joyeuse, hein. Si on regarde la première scène de bal, ça fait sortir, ça fait décharger une espèce d'énergie un peu brute. Alors que l'art apollinien permet une expression du sentiment élaboré, du sentiment tel que je le vis dans ma vie intérieure. Et finalement, ce n'est pas du tout la même chose qui s'exprime dans les deux cas. Alors, je vous ai dit que la question 2B, les questions 2B, on y répondra ensemble en classe et on fera l'étude du texte de Hegel. On va répondre à la question 2E. Non, c'est la question, en tout cas c'est la consigne. Et il s'agissait d'associer des extraits du roman aux diverses scènes. Donc on va commencer par le A. Nul plaisir vraiment ne vaut la lecture. On ne s'en lasse jamais tandis qu'on se lasse du reste. Ça correspond évidemment à la scène de l'extrait numéro 3 au tout début, premier plan du film avec Elisabeth qui est en train de lire Orgueil et Préjugés. Ensuite, nous avons le deuxième passage. Le deuxième passage, il est un peu long, je ne vais pas le lire. Mais donc ça renvoie, bon, tout début, à la fin, elle s'arrêta devant une toile dont la ressemblance était frappante. Donc il s'agit en fait de la correspondance avec la scène de l'extrait numéro 4. Alors vous voyez qu'il y a eu un petit changement entre l'adaptation et le roman. Elisabeth s'arrête devant un portrait de Darcy dans le roman, et c'est là qu'elle a la révélation de ce qu'est réellement Darcy et de ce que sont réellement ses sentiments envers Darcy. Voilà, bon, ben là, dans le film, il s'agit d'une sculpture. L'extrait du roman petit c. Alors, je me demande si quelqu'un s'est déjà avisé à quel point la poésie peut tuer l'amour. Cette réplique, on la trouve dans la scène numéro 5, donc la scène du premier bal, le bal populaire. L'extrait D correspond à la conversation entre Elisabeth et Darcy qu'on retrouve dans l'extrait numéro 1 du film. Il s'agit donc de l'extrait sur ce qu'est une femme accomplie. Et il reste l'extrait E. Alors, dans la série de mes innombrables erreurs, dans mes séquences, voilà, donc l'extrait E n'est pas le bon puisqu'il s'agit d'un copier-coller de l'extrait C. En fait, l'extrait que je devais vous mettre, je vais vous le lire du coup, c'était le suivant. Quel joli divertissement pour la jeunesse que la danse, monsieur Darcy. À mon avis, c'est le plaisir le plus raffiné des sociétés civilisées. Certainement, monsieur. Et il a l'avantage d'être également en faveur parmi les sociétés les moins civilisées. Tous les sauvages dansent. Il s'agit donc d'un petit extrait de conversation où Darcy fait preuve d'une forme de mépris envers la danse en manipulant l'ironie. Tous les sauvages dansent, réponse à ce que lui disait son interlocuteur, c'est le plus grand déraffinement des sociétés civilisées. Bref, donc en tout cas, ça fait encore référence à la scène numéro 5 et éventuellement la scène numéro 6. C'en est presque fini de se corriger sur les questions du cinéphilo Orgueil et Préjugés. Il nous restera donc la question 2D à traiter en classe.